aujourd'hui, quasiment tous les clubs ont des analystes au sein de leur staff, des analystes vidéo pour la plupart, des analystes de la performance.
La connaissance de l'anatomie, elle est essentielle pour bien comprendre finalement quelles sont les spécificités du joueur qu'on a en face de nous et en quoi on pourrait améliorer son programme d'entraînement pour le rendre plus performant.
La première chose, évidemment, quand on analyse un match, c'est le visuel, c'est les émotions, une analyse qui ne peut pas se résumer à des statistiques. C'est une dérive qui me semble dangereuse et qui dénature un peu le jeu.
Les amateurs de foot exultent, les allergiques au ballon rond ne savent plus où trouver refuge. Le coup d'envoi de la 21e Coupe du Monde de football a été donné hier soir à Moscou et les matchs vont se succéder jusqu'au 15 juillet. Impossible d'y échapper, même la rédaction de France Culture s'est mise au sport, ou presque. Oui, cet après-midi, nous allons commenter des exploits sportifs, mais à travers le prisme de la science, nous allons parler de maths et de physique, de collecte de données, d'algorithmes, car pour optimiser les capacités de leurs joueurs, pour limiter les risques de blessures, pour multiplier les chances de victoire, les entraîneurs s'entourent de plus en plus de scientifiques. Plus ils acquièrent de connaissances en physiologie, plus ils sauront adapter leurs méthodes d'entraînement. Avec l'éclairage des neurosciences, ils comprendront le processus qui amène à prendre rapidement la bonne décision. Et même l'astrophysique peut être mise à contribution pour expliquer les mouvements du ballon. Mon coach est un chercheur. C'est un magazine de Guillaume Batin et Jérôme Val. Pour ce magazine de la rédaction, nous accueillons deux invités. À Paris, Mathieu Delalandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du sport, maître de conférences en STAPS à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. STAPS, c'est-à-dire ?
STAPS pour sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est donc la filière universitaire qui forme les étudiants au professorat d'éducation physique, mais aussi aux autres métiers du sport. Et les enseignants-chercheurs, qui y travaillent développent des recherches en sociologie du sport, en psychologie du sport, en physiologie, etc. etc.
Et à Marseille, Guillaume Rao, biomécanicien, maître de conférence à Aix-Marseille Université, faculté des sciences du sport. Vous travaillez également à l'Institut des sciences du mouvement. Guillaume Rao, en quelques mots pour les non-initiés, qu'est-ce qu'un biomécanicien ?
Bonjour. Donc un biomécanicien, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de faire correspondre deux mondes, le monde de la biologie et le monde de la mécanique. Donc l'idée, c'est de pouvoir analyser le geste ou analyser le mouvement en lui appliquant les concepts qu'on connaît bien en physique ou en mathématiques, de manière à pouvoir le comprendre, le décrire et l'expliquer.
Et Jérôme Val, journaliste du service des sports de Radio France, est également avec nous depuis Moscou. Bonjour Jérôme.
Bonjour Elie, bonjour à tous.
Vous suivez en ce moment la Coupe du Monde 2018, mais avant, avec Guillaume Batin, vous avez mené l'enquête sur la façon dont les données scientifiques sont aujourd'hui exploitées par les sportifs.
Pour le téléspectateur du football des années 90, c'était une curiosité. Aujourd'hui, c'est une habitude. Les statistiques ont envahi les écrans de télévision. À chaque diffusion de match, nous sommes abreuvés, parfois jusqu'à satiété, de chiffres, de données. Ce que l'on sait moins, c'est que les acteurs du football eux-mêmes les utilisent. La science a investi le terrain sportif, mis au service de la performance des joueurs. Comment mieux récupérer d'un effort? Comment améliorer ses courses? Quels sont les secteurs où un joueur est déficient? Mais les données scientifiques sont aussi mises à contribution sur des actions de jeu très précises.
Notamment Manchester City, lors de l'année du titre en 2012.
Gauthier Stangré a publié à l'automne dernier un livre « Le football est une science inexacte » aux éditions Amphora, accompagné d'un sous-titre qui en dit long « Entraîneur, joueur, journaliste, spectateur ». Comment le Big Data a changé le visage du football?
En fait, le département dédié à l'analyse de la performance de Manchester City a mené une étude sur la façon de tirer les corners. Et les statisticiens se sont aperçus qu'au cours des exercices précédents, l'équipe première ne marquait que très rarement sur cette phase de jeu. Il restait vraiment sur une vingtaine de rencontres, 25 voire même une trentaine, je dirais, sans marquer de but sur corner. Alors que pourtant, une équipe qui vise le titre en premier Ligue a besoin de marquer sur cette phase de jeu qui est arrêtée, qui est donc aussi prévisible. Et donc le département de l'analyse de la performance de Manchester City a décrypté les différentes facettes de plus de 400 corners tirés dans les 5 grands championnats européens. Et ils sont arrivés à cette conclusion: pour être dangereux sur un corner, il faut le tirer rentrant au premier poteau. C'est avec cette manière de tirer qu'on aura le plus de chances de marquer un but. Parce que c'est une technique qui présente l'avantage d'amener le ballon directement dans la zone de danger, celle face au but adverse, et de fait, avec l'effet qui lui est donné, de se rapprocher de la ligne de but. Voilà, donc les analystes de la performance sont allés voir l'entraîneur de l'époque, qui était Roberto Mancini, l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Italie. Il s'est montré réceptif aux propositions des analystes, mais c'est un entraîneur qui est quand même assez conservateur et qui est fort d'une riche expérience de joueur. Et il ne supportait pas de se voir dicter des principes de jeu par des matheux, des personnes en blouse blanche. Et donc, il s'est montré réceptif à leur étude, mais il n'a pas donné suite. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs Simon Cooper et Stefan Szymanski voient pour explication que les corners sortants, qui était la manière de tirer les corners de Manchester City, elle donnait plus majoritairement lieu à des beaux buts, des buts mémorables. Contrairement aux corners entrants, eux qui étaient des buts un petit peu moins esthétiques et donc qui rentraient un peu moins dans les mémoires. Et donc quelques mois après l'entrevue, les difficultés de l'équipe de Manchester City persistaient dans ces domaines de jeu. Roberto Mancini se bornait à faire tirer ses corners de manière sortante et Manchester City ne marquait toujours pas sur cette phase de jeu. Et donc, l'adjoint de Roberto Mancini est allé voir les analystes en question pour évoquer cette étude et à nouveau, et puis pour voir leurs résultats, s'ils étaient probants. Et sans avoir de nouvelles de la part du staff, dans les semaines qui suivirent, les analystes se sont rendus compte que l'équipe commençait à travailler ce secteur de jeu à l'entraînement, cette tactique à l'entraînement, et qu'en match, les premiers résultats commençaient à être concluants, et que 15 matchs plus tard, les Citizens avaient déjà marqué 8 buts sur ce type de phase arrêtée. Alors notamment parmi ces buts là, il y a le but de Vincent Kompany lors du derby de Manchester qui permet à Manchester City de revenir à hauteur de Manchester United, et il y a le but d'Edin Dzeko lors de la dernière journée, un match aussi qui était mémorable, la victoire 3-2 de Manchester City. Edin Dzeko égalise à 2-2 sur corner avec un corner rentrant tiré au premier poteau. Et à la fin de cette saison-là, Manchester City termine avec un bilan de 15 buts sur corner, dont 10 sur corner rentrant, comme la tactique proposée par les analystes. Et ils s'offrent le titre de champion cette année-là. Voilà. Donc ça fait partie des éléments qui ont contribué à offrir le titre à Manchester City.
Parkarius et Dzeko qui ne manquent pas l'occasion de remettre Rome à hauteur de Liverpool, de partout avec le buteur maison, Edin Dzeko.
Un bâtiment de briques rouges et de pierres grises dans le 13e arrondissement de Paris. Nous sommes à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, du nom du prix Nobel de physique en 1992. L'Institut est régulièrement sollicité par les fédérations, les clubs, les entraîneurs, rugby, basket, gymnastique, tir, tennis de table et bien sûr le football. Dans une étude datant de 2014, les ingénieurs de l'Institut se sont penchés sur un phénomène très ciblé, l'influence des terrains et des chaussures à crampons sur le risque de blessure des joueurs. Philippe Rouche est le directeur de ce laboratoire.
Les terrains qu'utilisent les footballeurs professionnels ou les footballeurs amateurs sont de technologies très différentes. Il y a eu vraiment un boom des différentes versions de terrains. Donc vous avez des terrains naturels qu'on appelle des terrains terre sable, des terrains synthétiques ou des terrains hybrides. Et même parmi les terrains hybrides, il y a beaucoup de technologies différentes. Et on se rend compte que ces technologies-là ont une influence sur les chargements au niveau des chevilles, des genoux, des joueurs. Et donc nous avons mené une étude permettant de façon scientifique, de démontrer que effectivement les terrains ont une influence sur les chargements intersegmentaires. L'idée finalement des scientifiques, c'est d'essayer de mesurer de façon propre quelle est l'influence réelle des terrains sur les joueurs. Donc ce sont des manips sur lesquelles on vérifie bien entendu la précision des mesures, la reproductibilité des mesures. Donc c'est des manips qui sont faites avec le plus haut niveau de finesse qu'on est capable de faire dans le domaine de la science pour regarder l'influence des terrains.
Donc votre travail, vous prenez par exemple une chaussure comme celle qu'on a devant nous et vous la triturez pour savoir quelle est un peu la réponse de l'organisme, du corps humain par rapport aux gestes qui sont pratiqués.
Donc une chaussure, c'est un objet qui du coup va mouler votre pied avec une certaine raideur, avec un certain amortissement. La raideur peut travailler suivant différents axes. Par exemple, vous pouvez avoir la raideur de l'arrière de la chaussure si jamais vous arrivez sur le talon. Vous pouvez avoir la raideur de l'avant de la chaussure quand votre pied fléchit. Donc nous essayons de reproduire des mouvements caractéristiques de vrais footballeurs pour identifier ces raideurs, pour identifier ces amortissements et classer les différentes chaussures avec des critères bien définis que peuvent utiliser les coachs, les préparateurs physiques, pour adapter au mieux la chaussure au joueur.
Quel est en fait le type de chaussure qui est le plus adapté, même à un type de poste, un gardien, un défenseur ou un attaquant qui doit aller vite, n'ont pas forcément les mêmes gestes.
Donc nous essayons finalement de faire la meilleure adaptation entre le joueur, son poste, ses capacités physiques, même son état de forme, et le terrain et les conditions climatiques. Typiquement, vous pouvez très bien avoir un terrain qui nécessite un certain niveau de cramponnage parce qu'il a été arrosé ou parce qu'il a plu, et un autre niveau de cramponnage parce que le terrain est beaucoup plus sec. Donc il faut vraiment faire une étude très fine pour être capable d'adapter son chaussage le jour J, la demi-heure avant le match, quand on fait la phase d'échauffement sur le terrain et qu'on se rend compte qu'on a le bon niveau de performance et le bon niveau de sécurité.
Question d'un béotien, est-ce que ça marche? Est-ce que les blessures ont vraiment été réduites par rapport à une meilleure adaptation du joueur à sa chaussure?
Donc ça marche. Le fait que les blessures diminuent, nous ne pourrons le voir que sur des études à très longue durée. Mais pour l'instant, on se rend compte que le ressenti que nous donnent les joueurs, puisqu'en fait ils ont des fiches pour savoir comment se passe le match, le ressenti est bien meilleur. On se rend compte que les risques pris sont bien plus faibles et donc il est clair que sur la durée, sur 2-3 saisons, ça va donner des résultats très positifs. Mais il faut bien voir que les blessures sont quand même des accidents qui sont assez rares, même si peu il y en est arrivé un par match, c'est quand même des accidents rares et tant mieux. Donc on ne pourra voir le bénéfice de ces méthodes que sur du long terme.
Quand le sport se met à la science, quand les blouses blanches s'invitent dans les vestiaires, le phénomène s'est intensifié depuis deux décennies avec une accélération exponentielle. La très grande majorité des data sur le football a été collectée ces deux dernières années. Mais l'histoire nous apprend que l'utilisation de données scientifiques est beaucoup plus ancienne. Pour Gauthier Stangré, auteur du livre « Le football est une science inexacte », son inventeur est un vétéran de l'armée britannique.
C'est un phénomène nouveau au niveau de la dimension de masse, parce qu'aujourd'hui quasiment tous les clubs ont des analystes au sein de leur staff, des analystes vidéo pour la plupart, mais pour les grands clubs, des analystes de la performance. Il y a des cellules qui se sont montées au cours des 10-15 dernières années dans la majorité des grands clubs européens. En revanche, il y a des pionniers, ça a commencé à partir de 1950. Alors c'est les auteurs Chris Anderson et David Sally qui le racontent dans le livre The Numbers Game, c'est un peu l'ouvrage de référence sur le sujet, et le pionnier en la matière s'appelle Thorold Charles Rip et en fait c'est un ancien commandant de la Royal Air Force, vétéran de guerre, qui lors d'un match en 1950 entre Swindon Town et les Bristol Rovers en Angleterre, il assistait à cette rencontre et il a constaté que les attaques des joueurs locaux échouaient systématiquement et de façon très frustrante. Et donc il s'est dit je sais pas comment expliquer ce phénomène, alors du coup je vais sortir un crayon et un calepin de ma poche et je vais commencer à noter minutieusement pendant la seconde période tous les paramètres propres aux actions offensives de Swindon. Et à la fin du match, il comptabilisa, c'était environ 150 attaques en faveur des joueurs locaux et une attaque aboutit à l'unique but de la rencontre. Justement, il a extrapolé ces données et il a considéré qu'en moyenne, une équipe se crée le double d'attaques par rencontre, soit approximativement entre 280 et 300, et qu'elle en convertit en moyenne 2 en but. Et donc, il s'est aperçu à partir de là que seulement 0,71% de ses actions de jeu aboutissaient à un but, ce qui est véritablement rien. Et donc, au fur et à mesure, il a reproduit un petit peu le même procédé sur de nombreux matchs, un peu plus de 2000 jusqu'aux années 90, et il a mis en place une tactique qui est bien nommée en Angleterre, qui est bien connue et qui pourtant a été, je vais dire entre guillemets, vomi par les connaisseurs de football et ceux qui aiment le beau jeu, c'est le kick and rush ou le long ball. pour l'appeler de manière un peu moins péjorative. Parce qu'en partant justement de cette donnée-là, il s'est dit, bah voilà, on va établir une tactique qui va permettre à l'équipe de marquer le plus efficacement possible. Mais du coup, pour marquer de la manière la plus efficace possible, il faut réduire au maximum le nombre de passes. Donc 3 passes en moyenne avant d'aboutir à un but. Donc généralement, ça venait d'un dégagement du gardien, une passe du milieu vers l'attaquant, et l'attaquant qui pouvait passer à son partenaire ou qui filait droit au but. Donc voilà, là, on a les prémices, on va dire, de l'analyse statistique. C'était dans les années 50, et il développant un peu plus tard cette tactique auprès de clubs, on va dire, laboratoire. Il y a eu Brentford, il y a eu Wolverhampton qui avait battu à l'époque l'équipe de Ferenc Puskás en Coupe d'Europe, qui avait réalisé un véritable exploit, alors que justement c'était l'équipe de Budapest qui était réputée pour son jeu au sol. Et ben ils les ont pris avec un jeu aérien assez dur, assez agressif, et avec cette tactique du kick and rush qui a permis à partir d'une analyse statistique de créer cette tactique et d'avoir des résultats plus tard.
La balle va à l'aile gauche puis revient à droite. Strapp passe à Flamion, chute et but. Après 3 minutes de jeu, la France mène par 1-0. Désormais, tout paraîtra facile, trop facile même pour les Français.
Autre époque, aujourd'hui les joueurs s'entraînent avec un GPS sur le corps pour mesurer leur vitesse et leur déplacement. Ils sont équipés de cardiogrammes, d'autres vont plus loin encore. Le club d'Offenheim en Allemagne propose à son équipe de jeunes des Google Glass, des lunettes intelligentes qui analysent les déplacements des joueurs. Tout est disséqué, tout est examiné scientifiquement, et certains ont imaginé des applications encore plus étonnantes. Des algorithmes ont été mis au point par exemple pour réguler le marché des transferts. On le comprend, c'est un chantier si vaste et inépuisable que la plupart des clubs ont créé un nouveau métier. Côté des staffs sportifs, il existe désormais un analyste de la performance que les anglo-saxons appellent le data analyst ou le data scientist, tout est dit. Les sélections, celles qui disputent le mondial en Russie qui a démarré hier, les ont imitées. Christian Gourcuff a été joueur professionnel avant d'entamer une carrière d'entraîneur, notamment à Lorient et à Rennes, club de Ligue 1, l'élite du football français, mais aussi sélectionneur de l'Algérie et depuis quelques jours à Doha, au Qatar. Christian Gourcuff est l'un des pionniers de l'utilisation de ces données statistiques. Ce fut très naturel pour lui dès le début des années 90, car il est aussi diplômé en mathématiques.
J'ai créé avec un informaticien de Lorient un logiciel d'animation déjà, donc qui permettait de visualiser un peu les aspects tactiques. Donc c'était en fait un tableau noir animé. Bon, maintenant c'est assez commun, mais bon, j'avais perçu tout l'intérêt de cet outil pédagogique. Voilà. Après, bon, sur les statistiques, je me suis intéressé aussi. Alors c'était assez rudimentaire à l'époque. Voilà, ça a commencé à pointer son nez quand même dans la fin des années 90, où on avait des choses intéressantes. Donc c'était surtout par curiosité. Puis après, bon, dans le temps, avec le développement de ces techniques et la vulgarisation de ces outils, j'ai pris beaucoup de recul quand même sur les analyses qu'on pouvait faire. Et surtout, je pense que les statistiques sont vraiment un outil, mais ce ne sont pas le fondement de l'analyse d'un match. Donc c'est quand je regarde un match à la vidéo après, je le revisionne. Donc c'est ça qui me permet d'avoir une analyse un peu plus fine, je dirais, d'un match, en dehors des émotions du match. Et après, je consulte les statistiques, mais toujours en étant critique sur les statistiques. On peut et si on analyse simplement le match à travers des statistiques, on passe à côté de l'essence même du jeu, qui est le jeu collectif, la coordination, le timing dans lequel on fait, qui ne sont pas répertoriés en termes de statistiques.
Ça sert à quoi? Ça sert à conforter une idée? Ça sert à bousculer un peu des idées préconçues? Les mathématiques, les statistiques, la vidéo, cette observation un peu scientifique du football?
Voilà, ça conforte en fait une idée. Et puis après, il faut toujours être critique. Vous savez, il y a des choses, la possession de balles par exemple, le nombre de passes, c'est une statistique que je regarde, mais je suis toujours critique par rapport à ces données, parce que c'est l'analyse du match qui permet aussi d'avoir justement une critique objective de ces stats. Après, il y a des choses qui sont complètement inutiles et qui n'ont aucun sens. Le nombre de tirs cadrés, par exemple, ça n'a aucun sens, parce que si une équipe frappe dès qu'ils arrivent à 30 mètres, en cadrant, c'est pas plus intéressant qu'une équipe qui cherche à construire et à mettre l'équipe adverse hors de position. Donc, et ça, on fait des interprétations justement parce que c'est vulgarisé maintenant dans les médias, dans le public, qui n'ont pas de sens. Le nombre de duels gagnés, par exemple, pour moi, n'a pas de sens parce que le duel en soi n'existe pas. Il y a, sur un terrain, il y a 11 joueurs dans un espace donné. Et donc, il y a des situations de 1 contre 1, mais qui durent en fonction du temps, qui sont très variables. Donc, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est une stat qui est beaucoup utilisée. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas intéressantes et qui nuisent même à l'analyse du match parce qu'on réduit le jeu à des stats et évidemment l'essence du foot qui est un sport collectif n'est pas là. La première chose évidemment quand on analyse un match c'est le visuel, c'est les émotions, une analyse qui ne peut pas se résumer à des statistiques. C'est une dérive qui me semble dangereuse et qui dénature un peu le jeu.
Vous avez été sollicité par l'école polytechnique et vous avez mené une sorte de travail mathématique avec les élèves par rapport à la sélection de l'équipe de France, des 23 joueurs de l'équipe de France qui vont disputer la Coupe du Monde de football. Quelle était la démarche et en quoi vous avez apporté votre expérience à la fois de diplômé en mathématiques et d'entraîneur de foot?
C'est un colloque qui était mené par des élèves de polytechnique. Ils ont créé un algorithme en fait où justement à partir de stats ils formaient la sélection de l'équipe de France. Alors un algorithme qui est très très logique. Le problème c'est comme je l'ai dit, si on raisonne sur des bases qui sont fausses, en enlevant tous les aspects collectifs du jeu, c'est-à-dire la coordination, tous ces aspects-là qui ne sont pas quantifiables, on passe à côté de l'essentiel. Et donc en fait c'était un raisonnement qui était bon, mais sur des bases qui étaient fausses. Et donc on arrivait à une liste comme ça qui correspondait pas à la réalité. Donc je pense pas qu'on puisse s'appuyer sur des statistiques essentiellement pour faire une sélection notamment. Donc c'était plus un jeu, mais bon, ça montrait tout le danger d'être mené par les statistiques, parce que c'est bien sûr le sport et le foot en particulier, tout ce qui est jeu collectif, ne peut pas reposer essentiellement sur les statistiques.
La science est partout, et comme le football, c'est une évidence, est une superpuissance financière, le marché est juteux et presque sans limite. Les spécialistes du logiciel des start-up se sont créés aux quatre coins du monde pour tenter de décrocher une part du gâteau. En France, elles sont nombreuses. Goldtime Football est née en 2013. Elle n'a pas encore atteint son seuil de rentabilité, mais ses parts de marché sont en pleine croissance.
Nous allons donc à Meudon pour découvrir le travail de cette start-up avec Guillaume Batin.
Sur la pelouse synthétique du stade Marcel Beck de Meudon, les moins de 14 ans de la Salésienne de Paris affrontent l'ACBB de Boulogne-Billancourt.
Les gars, on va vous équiper de capteurs Goldtime. Vous venez deux par deux, d'accord ?
Au bord du terrain, Émeric de Tilly, directeur associé, et Alilou Issa, le cofondateur, équipent les joueurs de la technologie Goldline Football.
Vous baissez la chaussette de votre pied fort. Donc pied droit si vous êtes droitier, pied gauche si vous êtes gaucher. Et on vous installe le strap autour de votre cheville. Donc le premier, ici, c'est Dimitri.
Alors là, je suis en train d'équiper le premier joueur en plaçant le capteur autour de sa cheville. De manière à ce que ça le gêne pas, qu'il soit à l'aise. D'ailleurs, je lui pose la question.
Oui, je suis parfait, là, ça va très bien.
19-11, capteur 19-11. Ok, deux autres joueurs.
Et donc là, il va pouvoir remonter sa chaussette. Et le joueur a été ajouté sur la tablette. Donc ça y est, le joueur est associé avec l'équipement, il est prêt à jouer.
Goldtime Football, c'est un équipement connecté qui permet à l'ensemble des joueurs d'une équipe de récupérer deux types de données. Les données physiques, c'est-à-dire les distances, les allures, les accélérations, les sprints principalement, et les données de jeu. Et c'est la particularité de Goldtime, c'est qu'on est capable, grâce aux capteurs et à la technologie brevetée, de détecter et de dire combien de ballons touchent un joueur. Et surtout, ça va un peu plus loin, de dire à qui il le donne et de qui il le reçoit. Ce qui permet à la fin d'une rencontre ou d'une opposition, qu'elle soit amicale ou officielle, de voir la connexion des joueurs, la façon dont le ballon circule au sein de l'équipe. Et puis de voir donc si au final les consignes du coach sont plus ou moins impliquées sur une opposition dans la réalité. On a aujourd'hui donc un certain nombre de clubs, plus de 120 qui l'utilisent à travers la France de manière régulière et quotidienne. Et voilà, et ça permet donc au coach d'améliorer la performance de son équipe et puis surtout de fluidifier la relation qu'il peut avoir avec ses joueurs.
Votre cible, c'est les clubs professionnels ou la plupart de vos clients, c'est des clubs amateurs et des enfants comme ici?
Alors j'allais dire, on est ici au stade Marcel Beck, au cœur de notre marché. Un club comme l'ACBB, par exemple, c'est clairement une cible, enfin c'est même plus une cible, puisque ils ont été un des premiers à trouver l'idée intéressante, à la tester et à l'acheter. Donc voilà, c'est notre cible, c'est principalement les clubs amateurs. Il faut savoir qu'en France, il y en a à peu près 15 000. Et dans ces 15 000, il n'y a que 40 clubs professionnels. Alors bien sûr, on s'intéresse aussi aux clubs professionnels, souvent par une entrée, soit par les sections féminines, soit par les centres de formation, parce que c'est toujours intéressant d'avoir une belle visibilité et puis de s'adresser à ces clubs prestigieux. Mais voilà, notre objectif, c'était de démocratiser ces données qui sont clairement les mêmes que les joueurs professionnels.
Bien joué ça. Et après, Mehdi.
Baptiste Pommier est responsable de la préformation des moins de 13, 14 et 15 ans à l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt.
Le logiciel est quand même assez bien fait avec, par le biais de diagrammes, par le biais de réseaux, de circuits de passe. Donc on arrive quand même facilement à avoir une lecture. Et puis avec l'habitude, on arrive assez aisément à trouver les leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Et surtout, on a un feedback visuel très intéressant, surtout sur un public d'adolescents.
Tous les coachs l'utilisent ici à la CBB ou certains refusent cette technologie-là ?
Non, essentiellement, c'est surtout pour nos U17 nationaux, sur l'élite des U17 qui l'utilisent. Après, on a fait pendant 2-3 ans beaucoup de tests avec les concepteurs qui ont permis de mieux appréhender cette technologie et surtout de la vérifier et de la valider. Ce qui est hyper intéressant, on le voit avec nos jeunes notamment qui utilisent la vidéo, c'est d'avoir un feedback auditif, un feedback visuel de sa performance. Et les jeunes sont en recherche de ça. Comment moi, joueur, je peux m'améliorer ? Est-ce que je peux m'améliorer uniquement avec le discours de mon coach ? Est-ce que je peux m'améliorer en voyant les outils concrètement ? Et surtout en ayant donc un repère visuel pour ensuite augmenter mon niveau de jeu.
Quand vous parliez de foutoir technologique, vous êtes très sollicité par des sociétés comme celle-ci ou d'autres ?
Oui, on reçoit tous les 15 jours à peu près des mails, des sollicitations sur des nouvelles applications, sur des nouveaux logiciels. Voilà, il y a beaucoup d'offres. Donc c'est vrai qu'il faut faire un petit peu le tri sur ces choses qui deviennent un petit peu redondantes.
La technologie Goal Time Football est produite et assemblée en France. Il faut compter un budget de 2000 euros par club pour 16 capteurs, la tablette qui recueille les données et les licences d'exploitation. Après 5 ans de recherche et de mise au point, Emeric et Alilou visent à présent le marché européen.
Alors j'ai une première question pour vous, Guillaume Rao. Vous proposez vos services au club. Est-ce que ce recours à la science représente un montant important au regard de leur budget et est-ce qu'ils sont prêts à investir beaucoup ?
Alors effectivement, c'est comme vous dites, hein, c'est un investissement. Après, il faut savoir que les montants dont on parle là, donc 2000 euros pour l'année, on va dire c'est un tarif d'entrée de base, d'entrée de gamme, parce que comme
ça
on l'a entendu aussi au début du reportage, quand on est en train de travailler avec des outils qui sont à la pointe de la technologie, et on parle là d'outils qui peuvent chiffrer facilement entre 100, 150, 200, voire 250 000 euros, il y a forcément un coût associé à cette utilisation. Donc, quelque part, tout l'enjeu de l'utilisation de ces outils et de cette technologie, c'est d'arriver à apporter la réponse attendue en ayant le meilleur compromis, le meilleur retour sur investissement. Donc, essayer de maximiser un petit peu ce qu'on est capable de retourner au club. Et bien évidemment, en fonction de la demande, si la demande est très élevée et qu'elle nécessite d'impliquer beaucoup de matériel, beaucoup de chercheurs et beaucoup de temps, et ben le montant final sera beaucoup plus élevé. Ouais.
Oui, ça peut être exponentiel. Alors, on paye cher, mais le résultat n'est pas garanti pour autant. Mathieu Delalandre, les entraîneurs aimeraient évidemment avoir des réponses claires, précises, mais on leur propose parfois des études contradictoires.
Oui, c'est le propre de la science, puisque quand vous produisez une recherche, vous êtes soumis à la critique de vos pairs. C'est le principe même du fonctionnement scientifique. Donc effectivement, parfois, il arrive que les connaissances produites soient controversées, discutées, débattues.
Débattues entre... C'est-à-dire qu'il va y avoir... Voilà, il y a une étude qui dit ça et une autre étude qui dit l'inverse.
C'est ça.
Et ça arrive finalement assez régulièrement.
Régulièrement,
Ça dépend. Il y a des phases. Ça dépend du domaine scientifique. Ça dépend des sujets. Mais disons que oui, la controverse n'est pas rare dans le milieu scientifique. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des bases malgré tout, notamment dans les sciences du sport, qui sont, on va dire, partagées et admises, et qui, bah, parfois, à un moment donné, peuvent être, ceci dit, remises en cause.
D'accord. Alors, on a eu un aperçu des technologies mises au service du football, mais d'autres sports s'appuient aussi sur ces innovations. C'est évidemment le cas des sports mécaniques, où la recherche et le développement sont indissociables de la performance, Jérôme Val.
Les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis, par exemple, ont vu arriver en 1911 le premier rétroviseur, avant d'être définitivement adopté par les constructeurs du monde entier 20 ans plus tard. La Formule 1 a également été le banc d'essai des technologies fabriquées en série, comme l'injection électronique, les palettes d'embrayage ou encore les commandes électroniques au volant. La Formule E, E comme électrique, a également amélioré l'autonomie des batteries et optimisé la récupération d'énergie. Et puis, dans une autre catégorie, celle du rallye raid et le prestigieux Dakar, là c'est une étude scientifique 100% française.
On écoute le reportage de Guillaume Batin.
C'est le jour de repos à La Paz, en Bolivie. Nous sommes sur le stand de Peugeot Sport, face à la 3008 DKR Maxi numéro 308, celle du pilote vendéen Cyril Després. L'enseignant-chercheur à l'université de Caen, Benoît Mauvieux, dirige cette étude. Avant un entretien avec le pilote, c'est l'heure du relevé des températures à bord.
Et là, je vais aller chercher une petite gélule, en fait, ça s'appelle un mi-bouton. Et dedans, en fait, on a enregistré à une fréquence de 10 minutes la température d'exposition dans le cockpit, pour comprendre vraiment ce qui se passait dans la voiture. Donc voilà, on l'a décroché, maintenant on va aller la vider, et on va regarder le graphique.
C'est une puce qui ressemble à une pile, quoi.
Ouais, c'est une petite pile bouton, ça vient du milieu industriel, c'est une durée de vie d'une dizaine d'années, c'est une précision à 0,06 degrés, donc c'est super précis. Et on choisit si on veut enregistrer une donnée toutes les secondes, 2 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, enfin voilà, comme on veut. Tous les pilotes de l'étude, que ce soit motards, les camions, tout ça, ont tous mis à peu près à hauteur de visage cette pilule qui va nous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe dans un cockpit.
Derrière l'atelier, Benoît va chercher d'autres données, celles d'une gélule bourrée de microcapteurs ingérés chaque matin par Cyril Després. Le soir, Benoît passe une tablette devant l'estomac du pilote pour les récupérer.
En fait, si tu veux, pour simplifier l'étude, moi je vous ai proposé de prendre une pilule tous les jours, c'était plus simple à gérer. Ouais. Après, par rapport au transit, il y a des pilules qui peuvent rester tout le temps du transit. Donc là, je viens récupérer avec René tous vos enregistreurs. Ouais. La journée de repos va me permettre de recharger les batteries des enregistreurs, vider vos données.
Ouais. Moi, je l'ai mis à charger parce que j'ai voulu
récupérer d'autres données.
Bah non, mais j'ai la pilule dans ma pochette et j'avais l'enregistreur, sauf qu'il était à plat, mais j'ai pas réussi à connecter.
Benoît analyse toutes les réactions du corps face aux conditions extrêmes. Les hautes altitudes, plus de 5000 mètres cette année, les fortes chaleurs qui peuvent atteindre les 65-70 degrés derrière un pare-brise, la déshydratation et le manque de sommeil.
L'objectif premier est d'abord de comprendre exactement ce qui se passe, parce que tout le monde, enfin beaucoup de coureurs disent qu'effectivement ils ont chaud et les décès des années précédentes sont évidents. Après on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas s'ils ont chaud longtemps, s'ils ont chaud jusqu'à combien de température ça monte, si quand ils ont chaud ils récupèrent facilement ou pas, donc ça on n'a aucune idée de ça. Et ensuite effectivement on pourrait émettre quelques hypothèses comme par exemple comparer la trace GPS idéale à leur trace à eux. Et l'idée, ce serait peut-être de voir quand il y a des erreurs de navigation, est-ce qu'au moment où il y a eu les erreurs de navigation, le copilote, entre autres, et le pilote aussi, était par exemple sur un niveau de température élevé. Puisqu'on sait très bien que sur une certaine amplitude de température, on va dire aux alentours de 36,5 jusqu'à 38,5, les fonctions cognitives marchent plutôt bien. Et qu'en deçà et en delà de ces deux températures, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile de prendre des décisions et d'avoir une activité cognitive rapide, puisqu'il faut traiter de l'information très rapidement. Et on pense, enfin en tous les cas dans d'autres domaines, ce sont des choses qui sont flagrantes. Hein. Les accidents chez les pompiers, par exemple, montrent sous forme de grande chaleur que souvent les accidents sont des accidents de prise de décision. Donc là, ça peut être une hypothèse. En tous les cas, ça c'est une piste qui m'intéresse. D'autres pistes, ça serait par exemple de travailler sur l'ergonomie des tenues vestimentaires. Aujourd'hui, il y a des matériaux, des tissus intelligents qui permettraient peut-être d'améliorer le confort et la thermorégulation des pilotes moto qui sont, eux, très exposés. Et puis après, on sait aussi très bien que les pilotes ont besoin d'avoir une puissance maximale de leur véhicule. C'est pour ça qu'en fait, la clim n'est pas utilisée dans les cabines afin de gagner tous les chevaux possibles. Maintenant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rouler de temps en temps avec la clim, quitte à perdre un petit peu de puissance moteur, mais en gagner, gagner en confort thermique, et ne pas faire des erreurs de navigation, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer maintenant de travailler.
Les enseignements, ils peuvent servir à ces professionnels du rallye, à d'autres professions aussi. Vous citiez les pompiers, mais j'imagine qu'il y a une multitude de professions qui pourraient être intéressées.
Oui, tout à fait. Bah, il y a plein d'environnements, que ce soit des environnements professionnels, comme par exemple, on peut citer les plateformes logistiques de distribution alimentaire, hein, des gens qui vont travailler la nuit dans des expositions, il fait moins 26, par exemple. Donc là, c'est des problématiques que l'on rencontre. La problématique des pompiers, elle est connue aussi. La problématique des médecins de garde, ou tous les hôpitaux qui travaillent en 3-8, c'est des choses qu'on connaît très bien. Et puis après, dans le milieu sportif, bah, on rencontre aussi des environnements alors différents du Dakar, certes, mais il y a tous les marins, par exemple, qui sont sur des courses très rapides, comme le Tour de France à la voile, où c'est des épreuves d'une vingtaine jusqu'à 50 heures, les transatlantiques, 7 jours, et puis bah, le fameux Vendée Globe, où effectivement la privation de sommeil, elle est directement au cœur de la problématique de la prise de décision. D'autres activités sportives qui sont plus courtes, les 24 heures du Mans, on connaît, on a déjà fait une étude là-dessus. Et puis des problématiques aussi sur l'ultra trail, où les gens sont soumis à des courses qui vont durer entre 20 et 60 heures avec une privation de sommeil. Donc moi, ce qui m'impressionne en tous les cas, puisque je suis complètement naïf dans le sport automobile, je suis très surpris des moyens techniques qui sont développés sur les machines. Les ingénieurs sont capables de prouesses énormes, vont régler des amortisseurs, vont vous sortir des puissances moteurs. C'est très technique. Et à la fois sur l'humain, qui est quand même au centre de la performance, je ne dis pas qu'il n'y a rien de fait, hein, les gens se préparent, mais c'est souvent de l'entraînement aérobie, ils vont faire des footings, ils s'entraînent un petit peu dans les saunas, mais on est très loin de la vraie problématique que l'on va rencontrer en course. Il y a assez peu de choses de fait.
L'étude menée par Benoît Mauvieux est la première en 40 ans de Dakar. Après la mort par hyperthermie du motard polonais Michel Hernik en 2015, l'organisateur ASO s'est laissé convaincre.
Nous retrouvons Philippe Rouche, directeur de laboratoire à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak à Paris.
C'est la salle d'analyse de mouvement de l'Institut de biomécanique. Donc c'est une salle qui fait à peu près 200 mètres carrés et qui est liée à la mesure du mouvement en 3D qui nous permet d'analyser finalement la cinématique. Comment bouge quelqu'un, comment il s'organise pour réaliser un geste. Ça peut être marcher, ça peut être courir et en particulier ça peut être faire du golf.
35 golfeurs, dont 10 professionnels, sont passés dans cette salle au mur nu où sont disposés des ordinateurs. Ce programme est l'un des plus anciens du laboratoire. Il remonte à 2012.
Nous demandons à des volontaires qui sont coordonnés par la Fédération française de golf, sous la direction de son docteur, le docteur Olivier Rouillon, de venir faire une analyse du swing sur des mouvements caractéristiques. Donc on leur demande d'utiliser leur driver, leur fer 6 et leur putter. Et on va mesurer finalement en 3D, on va enregistrer ce mouvement qui est d'une extrême complexité. Parce qu'il faut être capable d'amener la tête de club à peu près à 55 mètres par seconde, donc vous voyez une vitesse considérable, dans un temps extrêmement court, un tiers de seconde. Et donc l'organisation que met en place le joueur pour arriver à cette performance est une phase clé de manière à être capable d'être précis, répétable et surtout d'aller loin, en particulier au driver.
Là, il se met ici, il répète son geste et vous le scrutez, vous l'examinez, vous le scannez même dans son mouvement.
C'est exactement ça. Donc il y a une phase d'échauffement pour qu'il soit bien entendu le plus à l'aise avec la salle. Ensuite, on lui demande de faire 10 swings avec son driver, 10 swings au fer 6. On va coller sur sa peau des petits marqueurs, à peu près une 90, qui vont nous permettre de mesurer de façon extrêmement fine son mouvement en 3D. C'est le même type de système pour du cinéma d'animation. Si les gens vont voir sur Internet, ils pourront voir à quoi ça ressemble. On utilise en fait des capteurs qui vont mesurer les efforts de contact au sol sous ses pieds. On vient coller des électrodes qui vont mesurer l'activité de ses muscles. Et on va pouvoir avoir une analyse extrêmement fine de son mouvement, de son activité musculaire. Et on va du coup pouvoir corréler la performance, qui est mesurée à l'aide d'un radar de vol TrackMan, avec son organisation dans l'espace. En parallèle de ça, nous proposons de réaliser un modèle 3D personnalisé à l'aide d'une stéréoradiographie EOS, qui est l'une des spécificités de ce laboratoire. Donc nous avons le squelette en 3D du joueur, de manière à bien comprendre quels peuvent être les biomarqueurs de la performance sur l'organisation même du squelette. Est-ce que la distance entre les têtes de hanche est un facteur qui prédispose à des bonnes performances au golf ou pas? Donc nous analysons au plus fin les détails du corps humain pour la pratique du golf.
Vous essayez de déceler de manière précise et scientifiques, des choses qu'un entraîneur, par exemple, ne verrait pas sur son joueur.
L'avantage de la radiographie, c'est qu'on peut voir à l'intérieur du corps humain, ce qui est vraiment une chance que nous avons au laboratoire. Donc il est clair que ces datas sont extrêmement intéressantes pour les coachs, pour les préparateurs physiques, pour les médecins, parce que souvent les golfeurs peuvent avoir des spécificités anatomiques. On a beaucoup de golfeurs qui ont même une vertèbre en plus, qui est quelque chose qui peut arriver de façon très naturelle dans la croissance du rachis. Mais cette spécificité peut aussi donner un peu plus d'amplitude de mouvement, vous voyez, en torsion. Donc la connaissance de la finesse de l'anatomie, elle est essentielle pour bien comprendre finalement quelles sont les spécificités du joueur qu'on a en face de nous et en quoi on pourrait améliorer son programme d'entraînement, son programme de préparation physique ou son geste pour le rendre plus performant ou plus répétable si jamais le problème est là.
Et à votre connaissance, les entraîneurs transmettent ces informations aux golfeurs qui du coup modifient leurs gestes et leurs gestuels ?
Donc c'est exactement ce qui est fait là. Nous nous proposons d'accueillir des golfeurs avec leur coach. On le fait systématiquement avec le coach car ce sont eux les spécialistes du golf. Nous faisons donc cette analyse dont les résultats sont donnés au coach et au préparateur physique qui vont interpréter les datas en fonction de l'historique du joueur, de ses spécificités du jeu et des points que eux souhaitent améliorer avec leur joueur. Donc c'est vraiment le coach et le préparateur physique qui vont faire le transfert des données scientifiques envers le joueur de manière à ne surtout pas perturber une mécanique bien huilée qui est souvent installée depuis des années. Et c'est bien de vouloir améliorer, mais il ne faut surtout pas finalement détruire quelque chose qui fonctionne très bien. Les coachs ont une vision, un instinct qui est extrêmement aigu. Là, ça leur permet justement d'avoir une base scientifique qui permet d'expliquer ce qu'ils ont pu voir justement avec leur habitude de la vision du jeu. Et quand on en discute avec eux, ils nous disent bah, « la data que tu m'as donnée me conforte dans la voie sur laquelle je voulais aller. Je pensais que c'était ça, mais j'avais aucun moyen de le mesurer. Aujourd'hui, j'ai pu le voir en vrai avec des datas issues de capteurs sur les qui vraiment on ne peut pas douter. » Et donc, c'est pour eux aussi une façon de les conforter dans la voie avec laquelle ils veulent faire évoluer leurs joueurs et du coup ça permet de vraiment faire avancer les choses.
Mon coach est un chercheur, un reportage de Guillaume Batin et Jérôme Val avec Annie Brault à la réalisation. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous retrouvons le biomécanicien Guillaume Rao à Marseille, le sociologue du sport Mathieu Delalandre à Paris et le journaliste Jérôme Val à Moscou. Il ne faut pas détruire ce qui fonctionne, dit Philippe Rouche. Mathieu Delalandre, chercheur et entraîneur, ce sont des professions assez éloignées au départ. Les logiques ne sont vraiment pas les mêmes, le langage non plus. Comment est-ce qu'ils arrivent finalement à faire du chemin, à se rapprocher les uns des autres ?
Alors, ils n'y arrivent pas toujours, même si... Il arrive que ça fonctionne, ils n'y arrivent pas toujours, et surtout, ils n'y sont pas toujours arrivés par le passé.
Alors pourquoi ? Quels étaient les points de blocage, justement, les résistances ?
Alors, tout d'abord, ce ne sont pas les mêmes métiers, et on n'est pas soumis aux mêmes contraintes. Donc un chercheur est soumis à des contraintes de publication scientifique, de produire de la connaissance, etc., etc., qui ne sont pas les contraintes des entraîneurs sportifs. C'est une première chose. Par ailleurs, la science s'est beaucoup développée, on va dire, à partir des années 50, les sciences de la performance sportive, dans un premier temps, avec, on va dire, une conception assez prescriptive de la science, c'est-à-dire que le chercheur produisait des théories qui étaient ensuite supposées être appliquées sur le terrain. Donc, il y a eu le cas de ce qu'on appelait les théories de l'endurance-résistance, par exemple. Alors, en fonction d'un échocardiogramme, on prescrivait tel ou tel type de séance aux sportifs. Donc ça, c'était dans les années 60, jusqu'à ce que, on va dire, la nouvelle physiologie de l'effort qui venait des pays du Nord, on va dire, supplante ces modèles-là. Et donc, alors, il y a une évolution qui s'est produite très certainement, on va dire, dans les années 90, avec un double mouvement. C'est à la fois la miniaturisation des instruments de mesure, qui a permis d'aller mesurer la performance dans le contexte, dans son contexte écologique, dans son contexte de production.
Plus facilement,
et
donc.
Puis, tous ces capteurs là, mm-hmm. Dont on a entendu parler. Et puis aussi, les laboratoires ou des structures de transfert de technologies qui se sont, on va dire, équipées pour reproduire le terrain de sport. Donc soit le laboratoire qui va pénétrer le terrain de sport, soit le terrain de sport qui est reproduit en laboratoire et qui donc ont
permis d'avoir des analyses beaucoup plus fines de la performance et qui font que c'est les tensions qu'il y a pu avoir par le passé, puisqu'il y avait, c'était deux mondes au sein desquels il y avait vraiment des tensions quand on écoute les discours d'entraîneurs et de chercheurs pendant longtemps, tendent à s'estomper aujourd'hui.
Alors Guillaume Rao, justement, ça se passe bien pour vous aujourd'hui ?
Oui, tout va bien. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, le point principal et le point clé, c'est d'arriver à se comprendre. C'est-à-dire que quand on discute science ou quand on discute mouvement humain, ou expertise ou performance, parce que le mot est là, l'idée c'est que on va aller regarder la performance sportive avec deux visions différentes. La première qui est celle de l'entraîneur ou du préparateur physique, qui est une vision peut-être à un peu plus court terme que celle du chercheur, même si les mondes sont en train d'évoluer comme on le disait à l'instant. Donc il y a cette vision là et l'idée c'est d'arriver à mettre des mots qui font un sens commun sur les informations ou les concepts qu'on essaye d'appréhender et qu'on essaye de comprendre. Donc l'idée est vraiment là, c'est de partager un langage commun de manière à pouvoir poser des questions qui font sens pour les deux côtés, à la fois les entraîneurs, les sportifs et puis les chercheurs, de manière à apporter la meilleure réponse possible. Et de cette manière-là, on peut, comme sur le reportage qui a été présenté juste avant, aller analyser l'interaction entre l'homme et le matériel, donc que ça soit sur la chaussure de foot et le terrain par exemple, ou sur le club de golf et le golfeur, et récolter de la donnée suite à cette interaction, c'est-à-dire on va par exemple proposer une nouvelle chaussure et regarder comment le geste est modifié, on va proposer un nouveau club ou un nouveau driver et regarder comment le swing est modifié, quelles sont les caractéristiques mécaniques qui sont ajustées, et puis mettre ces ajustements en rapport avec la performance. Et l'idée justement c'est d'arriver à trouver quelque part la combinaison optimale pour permettre la meilleure performance sans forcément aller dégrader le geste de manière trop importante.
Donc les chercheurs sans cesse s'adaptent, essayent d'affiner leur étude en fonction des particularités des sportifs auxquels ils ont affaire et de leur environnement.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La notion d'environnement est primordiale parce que souvent dans ce qui a été fait dans les laboratoires jusqu'à très récemment, on essayait de reproduire le terrain à l'intérieur du laboratoire avec l'ensemble des conditions environnementales qui sont maîtrisées, parce que c'est le principe de la science, hein, c'est d'arriver à faire de la mesure et de l'expérimentation reproductive. Donc on essaye de contrôler le maximum de choses, et on sait bien que sur un terrain de sport, c'est pas le cas. Donc, jusqu'à présent, on a essayé de mettre le terrain de sport dans le laboratoire, et maintenant, on essaye un petit peu de faire l'inverse, voire de faire les deux, c'est-à-dire d'essayer d'aller complémenter ce qu'on trouve en laboratoire avec ce qu'on trouve sur les terrains.
Ouais. Mathieu Delalandre, entraîneur et chercheur, arrive donc beaucoup mieux à se parler aujourd'hui, mais ils sont pas dans la même temporalité. Et ça reste un problème encore maintenant.
Ça reste parfois un problème.
Parce que l'entraîneur, lui, il faut que ça se passe tout de suite. Il lui faut du résultat.
Bah, l'entraîneur, il lui faut souvent des résultats tout de suite. D'autant plus que les calendriers de compétition dans nombre de sports sont de plus en plus chargés. Le chercheur, souvent, a besoin de temps pour produire des réponses aux demandes des entraîneurs. Alors, faut distinguer deux cas de figure. Le cas de mesures, on va dire, qui deviennent habituelles ou qui sont répétées à chaque match. Là, évidemment, la réponse, les chercheurs produisent des outils qui permettent d'avoir des réponses immédiates. Mais quand il y a, on va dire, une question un peu inédite, inattendue sur un élément de la performance, bah, ça peut être plus difficile. Parce que la temporalité du sport, c'est assez court. Il faut des résultats tout de suite. Celle de la recherche n'est pas la même. Et puis, si on ajoute à cela le coût temporel pour l'entraîneur, parce que c'est l'entraîneur, le chef d'orchestre, le maître d'œuvre de la performance, il a un petit temps à allouer à ses contacts avec le chercheur, mais il a bien d'autres choses à faire par ailleurs, ça peut compliquer encore les choses.
Alors chercheur, entraîneur, il ne faut pas oublier le public non plus. Jérôme Val, vous êtes à Moscou, vous suivez la Coupe du Monde, vous savez combien le public réclame du spectacle, il vient avant tout pour se faire plaisir lui. Or la science ne produit pas forcément du beau sport.
Ah non, la France, la science, pardon, n'est pas là pour rendre le sport plus beau, plus esthétique. Non, la science, elle est là juste pour qu'il soit plus efficace, plus efficient. On l'a rappelé depuis le début de cette émission. Il faut que ça soit plus efficace. Et je vous renvoie à l'exemple qui avait été donné en tout début de reportage sur la façon de tirer les corners à Manchester City. Et il y avait deux écoles finalement. Il y avait celle de l'entraîneur Roberto Mancini à l'époque qui disait: non, moi, ce que j'aime dans la façon de tirer les corners de cette façon, c'est que c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup plus beau de voir un corner sortant et quelqu'un qui s'élève dans les airs pour mettre une tête, et c'est beaucoup plus beau à voir. Mais voilà, ça ne rentrait pas dans les buts. Et là, la cellule de performance du club, avec les preuves scientifiques à l'appui, lui a dit: mais non, il faut être efficient dans ce secteur-là, et c'est de cette façon. Alors, c'est moins beau, mais c'est plus efficace. Et effectivement, ça peut être au détriment aussi, mais en même temps, l'histoire du sport n'est qu'une histoire d'efficacité. On a beau parler d'un spectacle, il faut que ça soit quand même un spectacle qui soit important sur le plan du résultat. Et on peut avoir des matchs très ennuyeux, mais finalement, l'entraîneur, lui, est peut-être le plus heureux d'un bon résultat, même si le spectacle proposé a été d'un ennui terrible.
Alors, Guillaume Rao, vous y pensez quand même au public un peu?
Oui et non, j'allais dire. Au laboratoire, on mène des recherches, par exemple, sur l'effet du stress sur la performance. On a plusieurs axes de recherche, en particulier sur le basket. Les collègues qui mènent ces recherches-là essayent de mettre le joueur en situation de stress. Encore une fois, de stress contrôlé, et regarder l'effet de ce stress sur la performance. Et on sait tous d'expérience que dans la réalité, le reportage précédent parlait de NBA, quand on regarde le basket américain et même le basket français, on sait que des joueurs sont capables de se transcender sous l'effet du stress et d'être bien meilleurs que ce qu'ils sont capables d'être. Et de l'autre côté, certains sont complètement tétanisés et la performance chute fortement. Donc là-dessus, on essaye de comprendre pourquoi, quels sont les marqueurs, les déterminants ou les manières d'entraîner les joueurs qui permettraient de prendre le pas sur ce stress ou d'arriver à se transcender sur commande. Donc ça d'un côté, et puis de l'autre, en tant que sportif pratiquant téléspectateur assidu de sport, quelque part un beau geste, c'est aussi un geste efficace, et quand on regarde un beau coup franc ou un beau sprint ou quelqu'un qui pédale bien, en général c'est efficace aussi. Donc quelque part, le côté esthétique rejoint un petit peu le côté de la perf.
Mais donc, vous le disiez là, on entend qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu hein, dans la performance, notamment quand on parle des sports collectifs, il y a la dynamique de jeu. En fait, vous allez travailler très différemment selon le sport pour lequel auquel vous allez vous intéresser, parce que si on compare sport collectif, sport individuel, sport mécanique, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux, alors que pourtant, l'apport de la science peut être majeur.
Oui, tout à fait. Et quelque part, le côté crucial de la chose, c'est d'arriver à poser la bonne question au départ. C'est-à-dire à bien caractériser, à bien circonscrire l'activité qu'on est en train d'analyser. Et effectivement, on peut parler de physiologie, on peut parler de neurosciences, on peut parler de biomécanique, on peut parler de psychologie, de motivation. Et l'ensemble de ces facteurs-là se combinent pour réaliser la performance. Et en fonction du sport ou de l'activité physique qu'on va analyser, l'objectif, c'est d'arriver à dire peut-être que dans ce cadre-là, le côté physiologique est un peu moins prépondérant, un peu moins prégnant sur la performance, et il faut axer un petit peu plus sur les aspects stratégie, les aspects tactiques. Et donc, les réponses qu'on va essayer d'amener aux entraîneurs vont peut-être un petit peu plus s'orienter sur ces aspects-là, notamment sur des aspects de peut-être de stratégie ou de combinaisons entre les joueurs, du coup de combinaisons de jeux, et être capable de leur fournir des informations, si possible en temps réel ou en temps très peu différé, sur la manière dont les joueurs s'organisent entre eux pour réaliser une performance.
Jérôme Val à Moscou.
Pour nos invités, comment voyez-vous, vous, le football dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on verra quelque chose, un sport de complètement différent de ce qu'on voit ou de ce qu'on découvre pour certains lors de cette Coupe du Monde, par exemple?
Guillaume Rao.
Oui et non. Oui, d'un certain côté, c'est-à-dire que dans les reportages précédents, on a beaucoup parlé retour d'information, feedback, et en particulier en ce moment, les tendances clés sont réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est-à-dire, on va essayer sur l'image de rajouter des informations pour complémenter un petit peu ce qu'on est capable de voir. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que, par exemple, sur la Coupe du Monde actuelle, les joueurs seront équipés de capteurs. Donc, à la fin, on va être capable de savoir, par exemple, combien de kilomètres ont été parcourus par chaque joueur, quelles sont les vitesses de pointe maximales, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des informations qui vont venir, quelque part, nourrir un petit peu plus l'auditeur ou le téléspectateur.
Merci, Guillaume Rao. Et merci, Mathieu Delalandre. C'était le magazine de la rédaction « Mon coach est un chercheur ». Reportage de Jérôme Val et Guillaume Batin, à la réalisation Annie Bro, à la technique Yann Denis à Marseille et Kevin Boisseau à Paris. Et puis grâce à Lise Verbeck, vous pouvez retrouver ce magazine sur franceculture.fr.